Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le vendredi 12 Farvardin, 1401 du calendrier iranien, 1er avril 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'Iran et la Chine s'engagent à lutter contre les sanctions illégitimes et unilatérales. L'Iran et la Chine s'engagent à lutter contre les sanctions illégitimes et unilatérales. L'offensive militaire russe entre dans sa 6e semaine en Ukraine. Et en Afghanistan, 1 million d'enfants en sévère malnutrition sont au bord de la mort, avertit l'Organisation des Nations Unies. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Alors que les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à Téhéran, les ministres iraniens et chinois des affaires étrangères ont affirmé qu'ils combattraient les sanctions illégitimes et unilatérales de Washington contre les pays indépendants. Le Trésor américain a annoncé une nouvelle série de sanctions à l'encontre d'un individu et d'entreprises liées à lui pour avoir fourni une assistance au programme de missiles balistiques de l'Iran. Hossein Amir Abdullahian et Wang Yi ont parlé jeudi de prendre des mesures pour contrer l'imposition unilatérale de sanctions illégales. Lors d'une réunion en Chine, en marge du 3e sommet des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de l'Afghanistan, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté des derniers développements autour des négociations de Vienne sur la relance de l'accord de 2015. Le commentaire d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. L'offensive militaire russe est entrée dans sa 6e semaine en Ukraine. Dans l'est de l'Ukraine, les forces pro-russes font état de progrès significatifs. Ces forces disent contrôler la quasi-totalité de la région de Luhansk et plus de la moitié de la région de Donetsk. Ils contrôlaient environ un tiers de chacun de ces régions avant que le Kremlin ne reconnaisse leur indépendance le mois dernier. Moscou a déclaré qu'une libération complète de ces territoires est désormais un objectif primordial car la capacité militaire de l'Ukraine a été sérieusement dégradée. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a averti que la Russie rassembler ses forces pour une grande offensive dans la région orientale du Donbass. L'OTAN affirme également qu'elle ne voit pas de retrait des forces russes en Ukraine. La Russie maintient la pression sur Kiev et d'autres villes et on peut s'attendre à ce que la Russie lance plus d'actions offensives, ce qui apportera plus de souffrances, a déclaré le président ukrainien sans fournir de plus amples détails. Pour mettre fin à la guerre, la Russie exige que l'Ukraine renonce à toute velléité de rejoindre les entités militaires, y compris l'OTAN, et maintienne une totale neutralité. Le président Zelensky a indiqué récemment que l'Ukraine pourrait renoncer à une adhésion à l'OTAN et qu'elle pourrait devenir neutre. Le chef de l'Organisation des Nations Unies a brossé un tableau désastreux de la vie en Afghanistan, avertissant que les gens vendent leurs organes et leurs enfants pour survivre. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé jeudi la communauté internationale à mettre fin à la spirale de la mort menaçant l'économie de l'Afghanistan en ouverture d'une conférence virtuelle de donateurs en faveur du pays dévasté. Le chef de l'Organisation des Nations Unies tente de mobiliser une aide humanitaire de 4,4 milliards de dollars pour l'Afghanistan en plein effondrement économique. Selon les données partagées par le ministère de la Santé publique, au début du mois, près de 13 700 nouveau-nés et 26 mères sont décédées en 2022 en raison d'un manque de nutrition. Les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan le 15 août après le retrait précipité des forces étrangères dirigées par les États-Unis et la crise humanitaire du pays s'est rapidement aggravée depuis. L'économie du pays s'est effondrée et plus de 24 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire pour survivre. La conférence des donateurs, co-organisée par l'Organisation des Nations Unies, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Qatar, vise à tripler le montant demandé en 2021 dans le plus grand appel de fonds jamais lancé pour un seul pays, mais n'a jusqu'à présent obtenu que 13% de la somme nécessaire. Et enfin, la Chine a décidé de limiter les délivrances de visas à des responsables américains en réponse aux restrictions de visas imposées par les États-Unis à certains responsables chinois, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la décision avait été prise afin de sauvegarder la souveraineté, la sécurité et les intérêts de la Chine. Il a souligné les interdictions de voyager imposées par les États-Unis au début du mois de mars, affirmant que de tels actes constituaient une violation des normes fondamentales régissant les relations internationales. Le porte-parole a déclaré que les États-Unis avaient fabriqué des mensonges sur la soi-disant question des droits de l'homme pour salir l'image de la Chine et réprimer les responsables chinois. Alors que les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à Téhéran, les ministres des Affaires étrangères iraniens et chinois ont affirmé qu'ils combattraient les sanctions illégitimes et unilatérales de Washington contre les pays indépendants. Mercredi dernier, le Trésor américain a annoncé une nouvelle série de sanctions à l'encontre d'un individu et d'entreprises liés à lui pour avoir fourni une assistance au programme de missiles balistiques de la République islamique d'Iran. Hossein Amir Abdullahian et Wang Yi ont parlé jeudi pour prendre des mesures pour contrer l'imposition unilatérale de sanctions illégales. Lors d'une réunion à Tunxi, en Chine, en marge du troisième sommet des ministres des Affaires étrangères des voisins de l'Afghanistan, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté des derniers développements autour des négociations de Vienne sur la relance de l'accord nucléaire de 2015. Amir Abdullahian a évoqué l'utilisation des sanctions comme outil de pression par les pays occidentaux contre les nations indépendantes, affirmant qu'il était important de défier les sanctions afin de contribuer à l'établissement de la sécurité et à la prévention des crises créées par l'Occident. Un jour plus tôt, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait déclaré que Moscou travaillerait avec Téhéran pour prendre des mesures pratiques afin de contourner les sanctions occidentales. La Russie a dépassé l'Iran en tant que pays le plus sanctionné au monde depuis qu'elle a lancé la campagne militaire contre l'Ukraine le 24 février. Les sanctions contre la République islamique d'Iran, cependant, sont intervenues après que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré un retrait non provoqué du plan global d'action conjoint en mai 2018 et a ciblé l'économie iranienne avec ce qu'il a appelé une pression maximale. Des négociations ont été lancées entre l'Iran et les autres parties du plan global d'action conjoint à Vienne en avril dernier pour remettre les États-Unis en conformité avec l'accord sous l'administration de Joe Biden. Cependant, Washington a imposé plusieurs séries de sanctions contre la République islamique d'Iran depuis le début des pourparlers, dans ce qui a été perçu à Téhéran comme des mesures de mauvaise foi par une administration de Joe Biden qui avait promis de rejoindre le plan global d'action conjoint et de supprimer les sanctions anti-iraniennes. Tout au long des pourparlers de Vienne, la Russie et la Chine ont soutenu la position de la République islamique d'Iran sur la nécessité pour les États-Unis de lever toutes les sanctions imposées après la signature du plan global d'action conjoint et ont assuré qu'ils ne quitteraient plus l'accord. Au cours de la réunion de jeudi, Hossein Amir Abdullahian a eu en outre souligné la nécessité d'activer les capacités des deux pays à étendre les liens, en particulier dans le secteur économique. Le chef de la diplomatie iranienne a également noté que les deux pays ont une coopération importante dans les organisations internationales contre la politisation des droits de l'homme et l'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Pour sa part, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a remercié Hossein Amir Abdullahian pour sa présence au sommet sur l'Afghanistan et a souligné la nécessité de mettre en œuvre l'accord de partenariat stratégique de 25 ans entre Téhéran et Pékin. En janvier, Amir Abdullahian a signé avec son homologue chinois, Wang Yi, les documents pour annoncer le début du partenariat stratégique entre les deux pays. L'accord permet à la Chine de s'engager à investir des centaines de milliards de dollars dans divers secteurs de l'économie iranienne. En retour, l'Iran s'engagera à fournir à la Chine un approvisionnement stable en énergie au cours des 25 prochaines années. Le partenariat stratégique sino-iranien a été annoncé dans une déclaration conjointe lors d'une visite du président chinois Xi Jinping à Téhéran en 2016. Il a été officiellement signé en mars 2021.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau volet du débat où nous allons donc discuter de ce fameux sommet donc du Negev où des groupes donc pro-palestiniens ont dénoncé d'ailleurs les prises de position du ministre marocain des Affaires étrangères lors de ce sommet en donc qualifiant qu'il se portait de porte-parole donc de Tel Aviv. Et tout de suite après ce sommet, donc il y a le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a effectué donc une visite de 2 jours au Maroc avant de se rendre aujourd'hui même à Alger. Sans plus attendre, nous allons donc juste avant de retrouver nos deux invités, regarder ce petit reportage et je vous retrouve tout de suite après.
La Jordanie, la Boudée, l'Égypte ont accepté l'invitation, mais à contre-cœur. Et plus l'Amérique, son initiateur de l'ombre, l'a totalement tué dans l'œuf. Al-Mayadeen a rapporté, citant des médias sionistes, que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a bel et bien mentionné au cours des débats le nom de l'Iran comme une puissance clé que les pays de la région ne pourraient sous-estimer ni faire la guerre contre. Selon le rapport, les médias israéliens ont rapporté que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait déclaré aux ministres arabes des Affaires étrangères participant au sommet du Negev, plus à leur homologue sioniste, que l'Iran était un élément clé dans la région avec ou sans accord de Vienne, ce qui veut dire à peu près la chose suivante. Les USA sont vaincus par l'Iran maintenant, que l'on veuille ou pas, il faut faire avec. Or, cet aveu vient d'un Blinken qu'on a tarissé il y a quelques semaines sur le compte de ce même sommet en disant qu'il était même impossible d'en imaginer la tenue il y a quelques années et que les États-Unis et leurs partenaires travaillent ensemble pour contenir les comportements agressifs de l'Iran et de ses alliés. Le dossier iranien a été d'ailleurs omniprésent au sommet et on disait même que le secrétaire d'État des États-Unis y était pour préparer les esprits des pays opposants à l'accord avec l'Iran, notamment Israël, à un éventuel accord bis. Évidemment, personne ne sait si ou quand l'accord sera renouvelé, mais la quasi-totalité des médias mainstream annonce avec une certaine frénésie qu'il y a des indications qu'il pourrait l'être bientôt, malgré plusieurs accrocs de dernière minute, dont l'un implique la demande de l'Iran de déblacklister le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, de la liste noire de Washington.
Voilà, de retour donc dans ce plateau. Je vais vous présenter tout de suite nos deux invités. Alors, Maître André Chamy, juriste international depuis l'Alsace. Maître Chamy, est-ce que vous m'entendez ?
Parfaitement.
Bonjour à vous et bienvenue donc sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer donc directement.
Merci pour votre invitation et bonjour à Monsieur Michel, qui est un interlocuteur assez assidu et dont j'apprécie les interventions.
Évidemment, Luc Michel, on ne le présente même plus, c'est notre géopoliticien. Monsieur Michel, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Un bonjour à votre équipe et à Maître Chami, que j'ai aussi grand plaisir à retrouver.
Alors, Maître Chami, je vais commencer par vous. Donc, merci de nous avoir accordé du temps. Quel est le sens de ce sommet du Negev, pour que nos téléspectateurs le sachent, en fait?
Alors, pour faire un peu de plaisanterie, ça s'appelle presque une psychothérapie. Parce qu'en réalité, toutes les parties qui étaient présentes essayaient de se rassurer comme elles le pouvaient à travers cette rencontre qui ressemble plus à un cocktail qu'à une préparation de quelques démarches que ce soit. Parce qu'en dehors, pour dire les choses plus clairement, en dehors d'Israéliens et les Américains qui sont partenaires, pour ne pas dire associés, dans tout ce qui se passe au Moyen-Orient depuis 70 ans, les autres ne servaient qu'à faire de la figuration, parce que qu'est-ce que feraient les Émirats Arabes Unis, qu'est-ce que ferait le Bahreïn, même l'Égypte d'ailleurs, qu'est-ce que ferait l'Égypte dans une éventuelle stratégie globale? Il n'y a rien, parce que pour contribuer à une démarche stratégique, il faut que vous ayez de la puissance. Les Émirats Arabes Unis ont besoin d'une protection. Le Bahreïn a déjà des problèmes intérieurs à régler. Il n'a même pas la capacité de se projeter dans quoi que ce soit, si ce n'est de chercher des gens qui le protègent à gauche, à droite. Il cherche l'Arabie Saoudite, il cherche les Émirats, il cherche les Turcs, et il cherche également les Américains et les Occidentaux. Mais en réalité, il n'y arrivera jamais parce qu'il est posté, si je veux dire, à cet endroit-là, contre la volonté de son peuple, et ça finira par chuter. Il reste qui? Il reste l'Égyptien, et l'Égyptien s'est dépêché de dire « moi, je suis là, mais en réalité en tant que spectateur, parce que je ne participerai à aucune alliance qui pourrait constituer un front contre l'Iran ou contre toute autre partie ». C'est la raison pour laquelle j'ai eu, le sens de l'humour en disant « ça ressemble plus à une psychothérapie ». Puisqu'ils essayaient de se rassurer. Et notamment pour rassurer les Israéliens. Mais en réalité, pour rassurer les Israéliens, il aurait fallu que les Palestiniens soient présents. Même si l'autorité palestinienne, à mon sens, a perdu toute légitimité et se trouve aujourd'hui dépassée par les autres franges de la résistance et qui ont fait leur preuve sur le terrain, que ce soit le djihad et bien d'autres, le djihad islamique, etc., ils ont déjà dépassé de loin l'autorité palestinienne. Et même l'autorité palestinienne qui a plus ou moins été connivente par rapport au projet américain, surtout pour des solutions dites pacifiques. Et bien aujourd'hui, l'autorité palestinienne n'était pas présente, et pour cause, parce qu'elle voit aujourd'hui qu'elle est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a sa population qui lui dit maintenant, ça commence à bien faire, vous continuez de faire des concessions, mais les concessions en 70 ans n'ont rien donné. Et en même temps, vous avez l'autre frange, c'est-à-dire la résistance active et armée qui a fait ses preuves et qui maintenant crée une sorte de dissuasion, pour ne pas dire à instaurer la peur réciproque, pour ne pas dire la terreur réciproque des deux côtés, c'est-à-dire si vous bombardez les Palestiniens, ben les Palestiniens riposteraient, et avec cet équilibre de force, même si l'équation est asymétrique, mais il n'en reste pas moins que pour l'intérieur israélien, il y a une crainte que ça déstabilise l'ensemble de la situation au Moyen-Orient, et plus particulièrement au sein de l'entité sioniste, parce que le sentiment de peur déstabilise la démographie, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Je pense qu'on y reviendra, mais les opérations palestiniennes au sein de l'entité sioniste conduira indiscutablement à le départ de cette entité et avec ce qu'on appelle un mouvement de retour vers les pays d'origine, notamment vers l'Occident. Et évidemment, à ce moment-là, cette entité se trouvera confrontée à un problème existentiel dont je parle depuis des années, parce qu'il y a une déstructuration qui se fait à l'intérieur, et l'implosion, à mon avis, de ce système deviendra inévitable.
Très bien, merci beaucoup, Maître Chami. Luc Michel, vous êtes avec nous.
Oui, je vous écoute.
Alors, la visite d'Anthony Blinken au Maroc et même à Alger aujourd'hui. Quel est le sens de cette visite, surtout dans le contexte actuel de tout ce qui se passe, en fait, j'allais dire en Afrique de l'Ouest, mais plus particulièrement au Mali?
Du plan de Poutine, dont le véritable but de guerre en Ukraine, c'était de dynamiter l'ordre mondial. L'ordre mondial n'a plus d'existence et le bloc américano-sioniste, quoique des positions qu'il croyait acquises, n'existent plus. En particulier, la majorité des États du Proche-Orient, qui étaient les alliés des Américains, sont restés neutres dans la guerre avec la Russie. En particulier au sommet de Doha de l'OPEP du gaz, les Émiratis et les Qataris ont pris position en faveur du bloc de l'Est, c'est-à-dire de l'Iran et de la Russie. Plus grave pour les Américains, en Afrique même, où il y a une véritable déflagration, où 34 États africains ont pris position pour la Russie, ou sont restés neutres, les Marocains, qui étaient la porte d'entrée des Américains en Afrique, sont également pour des raisons économiques restées neutres. Les Américains payent leur politique. Ils ont disjoint les alliances géopolitiques des alliances économiques, c'est-à-dire que les alliances géopolitiques et les guerres économiques étaient disjointes. Aujourd'hui, c'est une politique qui se retourne contre eux. Voilà ce qu'on constate. Et donc, je pense qu'il y a, à l'intérieur du Maroc notamment, des éléments qui essayent malgré tout de radicaliser la situation. Ça explique certaines positions marocaines dans ce sommet et qui ne sont pas suivies par les autres. Il y a même des positions américaines qui ne sont plus cohérentes. La visite de Wendy Sherman au Maroc, par exemple, a pris des positions qui sont par Anthony Blinken. C'est un effondrement partout. Des positions américaines. Et même les Israéliens sont restés neutres dans la confrontation entre la Russie et les États-Unis et veulent adopter une position de soi-disant arbitre au lieu de prendre position pour le rallié américain. Tout cela est inquiétant pour les États-Unis. Il explique les positions modérées dans ton Blinken.
Très bien, merci beaucoup Luc Michel. Je pense qu'il y a des petites coupures, mais bon, la régie va arranger cela. Maître Chami, est-ce qu'on peut réellement parler d'une alliance, en fait, qui se met en place contre l'Iran?
Cette velléité de constituer une alliance a toujours existé. Pourquoi? Pour, en quelque sorte, rassurer l'entité sioniste. Parce que l'entité sioniste sait aujourd'hui qu'elle est encerclée. Elle sait que les ennemis, maintenant, ses ennemis, sont autour de la première couronne. C'est-à-dire, si vous prenez la première couronne, que ce soit la Palestine, c'est-à-dire la résistance palestinienne, vous prenez la Syrie, vous prenez le Liban, et derrière eux, il y a d'autres pays et d'autres populations qui sont prêts à s'engager, bien entendu, dans une éventuelle guerre, pour ne pas dire un conflit généralisé. Évidemment, ça crée un véritable sentiment de peur au sein de l'entité sioniste, raison pour laquelle elle cherche à avoir des alliés. Mais qui sont ces alliés? Les Émirats Arabes Unis, ça ne constitue pas un allié, parce que jusqu'à maintenant, même avec toute une alliance, je dirais extraordinaire, avec les Saoudiens et bien d'autres, ils n'arrivent même pas à vaincre, j'ai envie de dire, le misérable peuple yéménite. Alors vous imaginez s'ils devaient tous se rallier contre l'Iran avec toute sa puissance. Vous prenez le Bahreïn, il n'arrive même pas encore à mater sa propre population parce qu'il y a une révolte qui continue et bien entendu qu'ils essayent d'écraser, mais ça ne marche pas parce que, encore une fois, cette population veut un autre espace de liberté que le royaume actuel ne lui assure pas. L'Égypte est confrontée également à des problèmes intérieurs et des problèmes économiques particulièrement graves parce qu'on est à l'approche d'une sorte de famine qui risque d'envahir l'Égypte. C'est-à-dire, quelle solution l'Égypte est capable de présenter à l'entité sioniste, surtout que jusqu'à maintenant, l'Égypte a donné tout ce qu'il pouvait pour aider les Israéliens, y compris participer au blocus de Gaza. Et malgré cela, ça n'a pas empêché le passage des armes, la reconstruction, si j'ose dire, de la force armée de la résistance palestinienne et la rendre encore plus puissante et plus capable maintenant de menacer l'extrême intérieur de l'entité sioniste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul point qui ne soit pas à la portée des missiles palestiniens. Que peut faire aujourd'hui l'Égypte ? Rien. Et c'est la raison pour laquelle Blinken fait ce qu'il peut pour lui dire, bah, regardez voir, maintenant vous avez des alliés dans le coin, mais ces alliés, encore une fois, ce sont eux qui ont besoin de protection. Et toutes les velléités de préparer un front, évidemment, il y a toujours une guerre de renseignement, il y a toujours une possibilité de proposer des pieds-à-terre pour les Israéliens dans des zones plus proches de la frontière avec l'Iran. Mais moi, j'ai toujours dit que l'œil vigilant de la République islamique d'Iran et plus particulièrement des gardiens de la Révolution, à mon sens, empêcherait toute possibilité d'une quelconque attaque. Est-ce qu'on est à l'abri de toute folie israélienne ? Non. Mais les Israéliens savent que la moindre démarche à l'encontre du territoire ou des bâtiments ou des intérêts iraniens, il y aura une réponse foudroyante et qui mettrait en cause l'existence de cette entité. Et maintenant, c'est ça aujourd'hui ce que j'appellerais le rapport de force, pour ne pas dire l'équation imposée par l'Iran et par ses alliés. Et aujourd'hui, l'évolution de la situation sur le plan géostratégique qui a été rappelée par Luc Michel, évidemment, ne peut que contribuer à l'amélioration des positions iraniennes dans la région, même si l'Iran, dans ses déclarations, dit qu'il est pour la paix et qu'il est pour la paix, mais il n'en reste pas moins que ses alliances avec la Russie et avec la Chine l'inciteraient toujours à être plus proche de la politique russe, et bien entendu les Russes seront plus à même avec les Chinois d'assurer une protection du dos, si j'ose dire, de l'Iran, et ne permettrait pas une quelconque intrusion. Et nous sommes aujourd'hui évidemment dans l'ambiance d'une guerre généralisée qui, à mon avis, n'aura pas lieu, mais cette ambiance-là ne peut que contribuer à créer plus de peur chez les Israéliens qu'auparavant, parce que en cas de conflit généralisé, bien entendu, ils seront entre guillemets les premières victimes de la politique impérialiste américaine avec celle des Occidentaux, qui ne varie pas par rapport à la politique américaine, alors qu'ils auraient dû prendre un peu de distance par rapport à ce qui se passe, mais malheureusement, cela n'arrive pas actuellement.
Très bien, merci beaucoup André Chami. Luc Michel, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait mettre la visite d'Anthony Blinken, donc justement en Algérie et même au Maroc, en fait dans, on va dire, la planification des États-Unis de reprendre les commandes de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement du Sahel?
Écoutez, les Américains assistent sidérés à l'évolution de la guerre économique qui est leur véritable pendant en Ukraine. Ce n'est pas important, ce n'est pas les opérations militaires de la Russie contre l'Ukraine. La véritable confrontation entre les Américains et la Russie, c'est la guerre économique qui a pour but américain de fracturer l'économie russe, mais de fracturer aussi les économies européennes. Les Israéliens et les Américains assistent effarés à leur isolement, malgré ce que la propagande de guerre de l'OTAN nous fait croire. Le refus du Proche-Orient de s'engager contre la Russie, le refus du Maroc, le refus de 34 États africains montrent l'isolement complet. Israël même a peur de s'engager contre la Russie. Ça explique sa position. Imprudemment, les Américains, en voulant s'emparer du marché du gaz et fracturer les importations russes en Afrique, ont cru qu'ils pouvaient compter sur l'Algérie, sur l'Iran et même sur le Venezuela pour remplacer la Russie. Et ils oublient leur politique d'hostilité et leur politique de sanctions contre l'Iran et le Venezuela, qui est une politique criminelle depuis des années. Fort justement, les Iraniens et les Vénézuéliens, mais aussi les Algériens, ont refusé de s'engager dans le soutien à l'économie occidentale face à la Russie. À partir de ce moment-là, les Américains se retrouvent isolés. Les solutions alternatives qu'ils proposent n'existent pas. Par exemple, les Russes fournissent à l'Europe 150 milliards de mètres cubes de gaz chaque année. Les Américains ont proposé de fournir une alternative de 15 milliards de mètres cubes. Les Algériens, les Iraniens et les Vénézuéliens ne vont rien finir. Dès lors, les Américains, comme on dit, le roi est nu et se retrouve nu face à la Russie. C'est cela qu'il faut constater. C'est l'effroi des Américains, mais surtout des alliés européens dans l'OTAN des Américains qui se retrouvent seuls face à la Russie. L'effroi de tous ces gens est de constater que leur plan machiavélique n'a pas fonctionné.
Merci beaucoup, Luc Michel. André Chamy, une dernière petite question. Vous avez parlé tout à l'heure des populations, mais ici, le groupe donc pro-palestinien est un groupe marocain en fait qui a dénoncé qui a plutôt qualifié en fait le ministre des Affaires étrangères marocain de porte-parole de Tel Aviv. Est-ce que le gouvernement marocain ne risque pas de se mettre à dos en fait la population marocaine?
C'est une possibilité, mais en réalité, ce ministre des Affaires étrangères était connu par ses déclarations. C'est-à-dire, ce n'est pas une nouveauté.
Est-ce pas dangereux alors pour le gouvernement marocain? Pardonnez-moi.
Ça peut évidemment créer à un moment donné. Si le mouvement devait s'amplifier, ça peut créer une déstabilisation importante. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement pour la population marocaine, le roi tient par les services secrets et les services de renseignement de toutes sortes depuis des années, même depuis l'époque de son père, toute possibilité d'opposition. D'ailleurs, ils sont connus par leur violence et par leur capacité de réprimer toutes sortes d'oppositions, y compris par les moyens les plus brutaux. Est-ce qu'un jour ça risque de leur échapper? C'est pas impossible parce qu'il y a, pas uniquement sur cette question-là, mais sur d'autres questions sociétales, économiques, politiques, démographiques, c'est-à-dire il y a des choses qui pourraient se passer, mais aujourd'hui, objectivement, ce n'est pas prévisible, mais ça peut être des éléments déclencheurs par rapport à ce qui se passe, parce qu'il peut y avoir une sorte de synergie autour des opposants sur ce point-là, et ça deviendrait quelque chose de plus important, ça ferait probablement un effet boule de neige.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est justement le but recherché, cette fameuse déstabilisation au Maroc, ce but recherché par les Occidentaux, et particulièrement par les Américains en l'occurrence?
Objectivement, aujourd'hui, ils n'y ont pas intérêt parce qu'ils ont, à l'époque de ce qu'on a appelé les printemps arabes, ils ont sélectionné les pays qu'ils voulaient déstabiliser en raison de, je dirais, justement des possibilités de changement qui pourraient leur échapper. La Libye était dans cette voie-là, la Tunisie était dans cette voie-là, et la Syrie, c'était plutôt, si j'ose dire, la dernière pierre de domino, parce que les États-Unis ne pouvaient pas s'en prendre à la Syrie seule, parce que ça aurait été trop flagrant pour dire qu'il y a une déstabilisation. Là, on l'a fait passer comme si c'était une vague de démocratie qui traversait le Moyen-Orient. Et on est passé de la Libye, la Tunisie et l'Égypte. On sait comment ça s'est terminé, c'est-à-dire on est revenu à la case départ. Moubarak, il est blanchi avec toute sa clique, et aujourd'hui, celui qui l'a remplacé, en réalité, c'est son fils spirituel. Il n'y a que la Libye qui a payé un prix très fort, la Tunisie retrouve un semblant de stabilité, nous verrons si la démocratie l'emporte avec l'actuel président qui est occupé par une certaine résistance de la classe politique très classique dans ce pays-là, et la Syrie est en train de sortir de cette guerre qui a été menée contre elle, même s'il reste encore des zones à libérer et surtout une économie à rattraper avec le vol de son pétrole par les Américains directement, ce qui constitue en soi un crime de guerre que les Américains n'assument pas et personne n'ose les attaquer, y compris en Occident et surtout en Occident, alors qu'on nous parle toujours de crime de guerre, mais là c'est un crime de guerre flagrant, reconnu et particulièrement documenté. Je ne parle même pas des autres crimes de guerre, mais particulièrement celui-ci, et personne n'ose ouvrir, si j'ose dire, la bouche pour reprocher aux Américains ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'est un vol aggravé, si j'ose dire, et par une occupation illégitime d'un pays qui ne leur a rien demandé et qui, bien entendu, qui cherche tout simplement à retrouver la paix et la sérénité dans son pays avec sa population.
Très bien, merci beaucoup Maître André Chamy. Donc je le rappelle, vous êtes juriste international et vous nous contactez depuis l'Alsace. Luc Michel, notre géopoliticien depuis Bruxelles, merci à vous d'avoir participé également à ce débat. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous retrouve à une prochaine fois.
Les 300 milliards de dollars russes saisis par l'Occident n'étaient qu'un gigantesque appât. Cela fait deux décennies que les Anglo-Américains, flanqués de leurs larbins européens, essaient par tous les moyens et sur plusieurs fronts d'atteindre la Russie, directement ou indirectement. Tchétchénie, Afghanistan, Géorgie, révolution de couleur en cascade tout autour du pays, sans parler de la formation d'une armée de mercenaires terroristes qui sont utilisés partout où l'intérêt des Occidentaux est en jeu. Les deux dernières tentatives de déstabilisation ont touché deux des principaux alliés immédiats de Moscou, la Biélorussie et le Kazakhstan, deux pays clés de la sécurité de la Russie. Le danger se rapprochait. Malgré cela, le gros nounours semblait toujours dormir, comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, avec de gentils partenaires tout autour, certes parfois turbulents, nécessitant quelques rappels à l'ordre par quelques grognements. Bien sûr, il a fallu donner quelques coups de griffe ici ou là pour empêcher la situation de déraper, comme ce fut le cas en Géorgie, en Syrie et au Kazakhstan, avec l'organisation du traité de sécurité collective. L'image du gros nounours endormi est la perception que la Russie voulait absolument donner d'elle-même et qui a été entretenue depuis des années. Il faut croire que cela a fonctionné, car c'est l'image qui prévaut en Occident, y compris chez la plupart des analystes occidentaux du monde russe. On comprend alors l'incompréhension et parfois la colère de quelques-uns d'entre eux devant l'inertie apparente de ce gros tas de muscles qui tolère placidement tous les coups de pied qui lui sont donnés par des gringalets. Ceux qui sont tombés dans le panneau sont les mêmes qui, aujourd'hui, sont étonnés de constater avec quelle facilité la Russie s'est fait voler 300 milliards de dollars par l'Occident. Pour eux, la Russie, en gros nounours dormant qu'elle est, ne s'attendait pas à se faire confisquer ses avoirs. Après 8 ans de sanctions anti-russes, après les divers razzias et pillages de banques centrales à travers le monde, notamment en Irak, en Libye, au Venezuela, en Afghanistan, etc., les dirigeants russes, tels de gros neuneux placides incapables de voir plus loin que le bout de leur nez selon eux, se seraient dit « nos gentils partenaires ne nous feront pas la même chose à nous ». En supposant même que les dirigeants russes n'aient rien vu venir jusqu'au 22 février, date de la reconnaissance des deux républiques du Donbass, l'on se souvient qu'une pluie de sanctions nouvelles est immédiatement tombée sur la Russie, avec des annonces occidentales laissant entendre qu'il ne s'agissait là que d'un hors-d'œuvre. La Russie avait encore alors la possibilité de rapatrier tous ses avoirs à l'étranger. Rappelons à tout hasard que nous ne sommes plus au temps où il fallait des caravanes ou des caravelles pour transporter des richesses à travers le monde. Avec le système SWIFT, les 300 milliards de dollars russes auraient pu être transférés instantanément. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué à jouer au neuneu. Par le passé, les Anglo-Américains nous ont habitués à des sanctions suivant des agendas préparés de longue date, parfois des années à l'avance. Ce qui se passe en Ukraine ne fait pas exception. Cependant, il semble qu'il y ait une sorte de télescopage entre deux agendas. Et celui qui l'emporte, pour l'instant, est un autre plan qui commence à pointer son nez, celui de la Russie. C'est comme si l'agenda russe avait complètement phagocyté l'agenda anglo-américain, s'appuyant entièrement sur celui-ci et se servant de lui pour avancer masqué. On voit bien depuis le fameux ultimatum que la Russie a lancé aux États-Unis et à l'OTAN, c'est elle qui mène la danse et qui gère le tempo tout en se cachant derrière le déroulement des plans anglo-américains. Mais tout cela pour en arriver où ? L'Occident, pour rester fidèle à l'image qu'il se fait de lui-même et qu'il a imposée au monde, ne peut laisser aucune incartade ou désobéissance impunie. Le problème, c'est que pour punir une puissance comme la Russie, il n'y a que les sanctions, l'action militaire étant exclue. Les Russes ont eu 8 ans pour se préparer non seulement à transformer chaque sanction en atout, mais aussi à en faire un boomerang qui fait aussi mal, sinon plus, à l'adversaire. Pour cette nouvelle vague de sanctions, ils étaient donc archi-prêts. Il semble même que les Russes aient attisé l'exacerbation des pays occidentaux, les poussant dans une sorte de surenchère qui les amènera à épuiser leur potentiel de sanctions économiques et les obligera à toucher à la sphère financière et à la loucher donc vers les avoirs russes en Occident. C'était d'autant plus tentant que ce béné de Poutine avait laissé dans les banques occidentales un joli pactole de 300 milliards de dollars qu'il avait oublié de rapatrier avant de commencer ses bêtises en Ukraine. Une telle aubaine ne se refuse pas, n'est-ce pas ? Telle une souris devant un morceau de fromage, l'Occident n'a pas pu résister et a fait main basse sur le trésor des Russes. Ce jour-là, les stratèges du Kremlin ont dû sabrer de champagne. C'était en effet une étape cruciale car elle permettait de passer à l'étape majeure dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il fallait que l'argent russe soit volé pour que les dirigeants russes puissent imposer le pétro-rouble à tous ceux qui ont participé au vol. Il ne s'agit pas seulement de punir les voleurs, mais de casser les bases du système sur lequel ils sont assis. Que va-t-il se passer dans les prochains jours ? Les Anglo-Américains et leurs larbins voient bien qu'un séisme vient de se produire. Ils sont pour l'instant en état de choc, en complet déni de la réalité. Ils n'admettent tout simplement pas que quelqu'un puisse les traiter comme ils ont toujours traité le reste du monde et en sont encore abasourdis. Ils en sont actuellement au stade de l'enfant qui refuse de respirer pour obtenir ce qu'il veut. Mais la Russie semble bien décidée à laisser l'enfant s'asphyxier plutôt que de faire preuve de compassion, d'autant qu'elle sait que le petit capricieux finira tôt ou tard par reprendre son inspiration. Gare tout de même à la colère dont les manifestations peuvent être irréfléchies. Nous voilà donc loin de la guerre en Ukraine qui s'est retrouvée malgré elle comme l'une des pièces principales de la stratégie anglo-américaine face à la Russie. Pendant 8 ans, ils ont eu tout loisir de transformer le pays idéologiquement et militairement. La constitution d'une force armée de plus de 250 000 hommes au Donbass n'est que l'aboutissement d'une longue préparation. Selon certains analystes, la Russie, avec toute la puissance d'observation dont elle dispose, n'y aurait vu que du feu. Peut-on imaginer que la Belgique puisse masser 250 000 hommes près de la frontière française pendant des semaines et des mois sans que la défense française n'en soit avertie ? Bien sûr que non. D'ailleurs, quand l'armée russe a commencé son offensive, la manière dont ils se sont déployés et tous leurs mouvements par la suite démontrent qu'ils savaient exactement tout ce qu'ils allaient trouver et où. Cela peut sembler cynique, mais on pourrait dire que devant la menace existentielle que représentait l'OTAN à ses portes, avec l'Ukraine comme poste avancé, la Russie s'est aussi, comme l'Occident, servi des Ukrainiens. N'oublions pas que les habitants du Donbass sont également des Ukrainiens. Qui a dit que tout le monde... « qui a dit que tout le monde, il était beau et que tout le monde, il était gentil? Mais est-ce vraiment du cynisme? Les morts ukrainiens sont bel et bien des victimes d'une guerre du monde russe contre l'Occident, comme les 26 millions de morts soviétiques, dont des Ukrainiens des deux camps, de la guerre précédente dirigée par un autre Zelensky nommé Adolf Hitler, qui travaillait lui aussi, donc pour le compte de ces mêmes commanditaires occidentaux. Cela veut juste dire que la Russie ne recule pas devant la mort pour préserver sa liberté et son indépendance, ce qui n'est plus le cas en Occident. Il est évident que pour mettre en œuvre un projet de cette envergure, la Russie a dû consulter ses partenaires, obtenir leur adhésion et définir un plan d'action coordonné. Ses alliés silencieux pour l'instant, car ils n'ont pas besoin de se dévoiler, n'attendent que le moment propice pour sortir de l'ombre. Et parmi eux, on pourrait bien trouver un panda somnolent qui attend leur hache pour entrer en scène.